premier invité des matins du samedi, un écrivain et pas des moindres puisqu'il fait partie de ceux que les Français aiment le plus. Maître du thriller, romancier des couples en crise et des secrets de l'Amérique, il a publié il y a quelques semaines son 14e roman qui se présente comme le premier tome d'une trilogie vasque fresque dans l'Amérique des années 70 et 80. Bonjour Douglas Kennedy.
Bonjour Carly.
Merci d'être avec nous ce matin.
Un grand, grand plaisir, même si c'est un peu tôt pour moi.
Ce livre s'intitule La Symphonie du hasard, livre 1. Il est traduit de l'américain par Chloé Royer. Vous êtes à nouveau en France, donc à nouveau à Paris, pays que vous aimez particulièrement, ville que vous aimez particulièrement. Vous y avez même un appartement. Qu'est-ce que vous aimez tant en France?
Beaucoup de choses. Honnêtement, surtout pendant une période très anti-intellectuelle, les idées comptent ici, des écrivains comptent ici, des intellectuels comptent ici. Et aussi, il y a des valeurs que j'adore, surtout au sujet quelque chose hyper important, l'éducation. Le plus grand gouffre aux États-Unis maintenant, ce n'est pas les États rouges contre les États bleus, une société laïque contre une société chrétienne, c'est l'éducation. Et ça, c'est la tragédie américaine depuis l'époque de Reagan. Et ça, c'est le troisième tome ici. Mais l'époque de Reagan, en fait, Reagan a complètement changé le trajet des États-Unis parce que il a commencé de corrompre, en fait, la démocratie sociale depuis l'époque de Franklin Roosevelt. Et c'était le moment quand l'argent est devenu complètement primordial. L'argent était toujours derrière de tout, en fait. Il faut lire les romans de Balzac pour voir ça, surtout dans une famille. Mais depuis Reagan, c'était l'époque des plutocrates. Des plutocrates. Et aussi pour moi, le moment quand tout est devenu cher. C'est très simple. Je me souviens très très bien. Et au début de ce roman, c'est les années 70 à New York et dans les banlieues aux côtés, tout était abordable. New York a fait faillite. C'était une ville dangereuse, mais aussi avec une vraie demi-monde, une vraie vie artistique. Maintenant, 45 ans après, 46 ans après, c'est un peu comme Monaco. C'est une île pour des riches. Et ça, c'est pour moi très tragique. Maintenant, aux États-Unis, la plupart des étudiants quittent l'université avec des dettes vastes. 150 000, 200 000 dollars. Comment on peut commencer une vie comme ça? Et j'ai deux enfants de cet âge, sans dette, mais grâce à mon écriture. Mais c'est rare. Donc, on vit dans une société complètement différente. Ici, en France, je pense que oui, il reste certaines valeurs très, très importantes, surtout au sujet de la culture. Je suis obsédé par la culture. La musique classique, c'est mon église. Le cinéma, les arts plastiques, mais aussi la littérature, qui est mon métier, mon art et métier. Le truc, j'ai dit ça récemment à ma fille, qui est quelqu'un qui lit tout le temps.
Amélia. À qui ce livre est dédié.
Tout à fait, et qui m'a stupéfié tout le temps.
Elle a 21 ans. Hein?
21 ans, et elle est actrice en Californie, à CalArts. C'est mon fils Max, qui a 25 ans, et qui est autiste. Elle a commencé son master's à l'Université de Londres, mais il a un blog culturel. Donc, il est obsédé par le théâtre. Donc, ma fille m'a dit récemment, on est complètement connectés, ma génération, mais complètement isolés. Ça, c'était une observation extraordinaire.
Du fait de cet amour pour ce que vous dites, les valeurs, la culture en France que vous trouvez ici et qui est un vrai plaisir pour vous, je suppose que vous êtes particulièrement content d'avoir autant de lecteurs en France, hein, 8 millions d'exemplaires vendus en France de vos quelques 17 livres, Douglas Kennedy. Comment vous expliquez que vous plaisez autant aux Français?
En dehors du fait que les Français ont très bon goût.
bien sûr.
Honnêtement, c'est passionnant parce que si on n'écrit pas des romans de gars, des romans populaires, je pense que chaque écrivain a une certaine sensibilité et on fait une certaine connexion avec un public ou pas. Par exemple, j'ai jamais trouvé un grand public en Allemagne. Mais ici en France, oui, en Corée du Sud, oui, pas au Corée du Nord, ça c'est une grande tragédie pour moi, mais je plaisante. Mais au Corée du Sud, j'ai un public immense. L'homme qui voulait vivre sa vie était adopté par des jeunes en Corée du Sud parce que c'est un roman contre le conformisme. Et le conformisme et la famille, c'est partout. C'est aussi un grand sujet de la symphonie du hasard. Mais ici en France, je pense que j'écris des romans très accessible, mais aussi en même temps sérieux. J'ai des universitaires qui lisent mes romans, mais aussi ma concierge dans 10e ou des chauffeurs de taxi. Et j'adore le fait que, honnêtement, on peut. Il y a l'idée, et surtout depuis l'époque de Nouveau Roman ou l'époque de Pierre Boulez dans la musique classique. Et j'avais un grand respect pour Boulez que j'ai interviewé 2 fois quand j'étais journaliste culturel à Londres. Mais il y a l'idée, si c'est là, c'est difficile. Ce sera difficile. Si ce n'est pas difficile, si c'est trop accessible, si on va tourner des pages, ce n'est pas une vraie littérature.
C'est comme un hommage, du coup, que vous rendez à ces lecteurs français en publiant cette trilogie d'abord en France avant même de la publier aux États-Unis, puisqu'il me semble que vous réservez la primeur aux lecteurs français.
Tout à fait. Ouais. Et Antoine Thome aussi. Et pourquoi Antoine Thome, en fait?
Ça, c'est parce que vous avez beaucoup écrit. Il a fallu couper.
Simplement. En fait, j'ai écrit la Symphonie du hasard pendant 15 mois. Et mon éditrice française avec laquelle j'ai travaillé depuis 20 ans, Françoise Trifot, madame, appelait, en fait, c'était fin 16, où est le roman? Et j'ai répondu, il faut que tu attendes, Françoise. Et puis, en fait, fin mars, je lui ai dit, c'est fini. Je n'ai pas à dire si c'est un grand roman, mais c'est très long.
1300 pages, hein, à ce moment-là,
1300
qu'il a fallu couper
pages,
en trois.
Et puis, en fait, j'ai tout livré fin mai. Elle m'a appelé, on peut déjeuner. Ça, c'est le moment de la vérité pour un écrivain, quand on va livrer le manuscrit, parce que c'est en dehors.
Ça vous échappe.
Oui, oh, c'est le cauchemar, parce qu'on attend le verdict des autres. Et puis, elle m'a dit, oui, c'est magnifique, mais c'est 3 pavés. Et aussi, le style de ce roman, même si c'est les années 70 et 80, c'est très 19e siècle, parce que c'est une famille et aussi une société. Et la famille est le miroir de la société. Mais pour moi, en fait, honnêtement, sociologiquement, la famille est le premier système dans la vie. C'est le premier clan. Et donc, ici, on a une narratrice. C'est la 8e fois que j'ai écrit dans la peau d'une femme.
Mais la première, Alice Burns. Sauf que là, elle a 18 ans.
Oui, mais et la première fois que j'ai écrit dans la peau d'une ado, ma fille, quand elle a lu le roman, elle m'a dit, tu as fait beaucoup de notes, papa, pendant mon adolescence. Et j'ai répondu, oui, mes excuses, mais...
Ces notes ont servi à l'écrivain.
Oui, mais comme j'ai dit à Amelia, comme toi, Alice a un esprit très libre, mais au milieu d'une société très conformiste et une famille très conformiste. Mais montrez-moi une famille sans secret. Montrez-moi une famille sans des trahisons. Montrez-moi une famille sans des dettes.
Sans culpabilité aussi. C'est un grand roman sur la culpabilité de Douglas Kennedy. Tous ces personnages qui sont dans la famille et même en dehors de la famille sont coupables ou se sentent coupables de quelque chose.
Tout à fait. Mais la culpabilité, c'est au centre de la condition humaine, Caroline. Et aussi pour moi, même si ce n'est pas un roman à clé, Alice Burns, c'est moi. Et aussi, comme Alice, j'ai grandi au milieu d'un mariage très raté avec une mère allemande juive d'un quartier petit bourgeois de Brooklyn et un père, en fait, irlandais catholique d'un quartier populaire de Brooklyn aussi. Donc, une mère juive, un père catholique, ça c'est en fait la culpabilité en stéréo. Mais aussi, en fait, on est dans un appart très de la classe moyenne. À Manhattan, pendant une époque, c'était au début des années 60, quand il y avait une classe moyenne à Manhattan. Mais pour moi, au début, on était 4 dans un appart de 65 mètres carrés. Et c'était un mariage émotionnellement très violent. Et Alice a dit au début, en fait, quand elle a presque 30 ans, une des choses que je comprends maintenant au sujet de la vie, c'est le fait que le malheur est un choix. Et tout le monde m'a demandé pourquoi vous avez une sensibilité très féminine. Et je pense, j'ai discuté ça quelques fois avec mon psy, très new-yorkais. Honnêtement, en fait, j'ai observé ma mère, qui était une femme vraiment des années 50, un mariage très jeune, elle a eu une petite carrière, et puis elle est tombée enceinte avec moi, et ça, c'était la fin de tout. Elle est devenue femme au foyer.
Mais c'est parce que ça vous amuse de faire cet exercice, de vous mettre dans la peau d'une femme, que vous écrivez souvent, on peut le dire, hein, huitième fois, donc, que vous écrivez souvent dans la peau d'une femme, ou c'est aussi parce que dans la mesure où vous écrivez à partir de votre expérience autobiographique, c'est une façon aussi de mettre les choses à distance, d'être moins reconnue dans le personnage d'Alice Burns.
Bravo, en fait, exactement comme ça. Si j'ai décidé de créer un livre quand, en fait, le narrateur, c'était une jeune New-Yorkais, très isolé. En fait, je n'ai pas trouvé une certaine vérité. Le fait que c'est Alice, et c'est en dehors de mes expériences, mais en même temps, en fait, de mes expériences. Ça, c'est la différence. Par exemple, je déteste l'autofiction, parce que c'est toujours la revanche. Et la revanche, en fait, est glauque. Et
il ne s'agit pas de régler ses comptes.
Oui, oui, on ne peut pas régler des comptes avec la littérature. La littérature, c'est une conversation. On peut poser beaucoup d'idées. Et ici, surtout, en fait, il y a beaucoup d'idées au sujet de la famille. Parce que voici une fille avec un esprit libre, avec deux frères très, très, très compliqués. Un très gauchiste, mais aussi une grande dragueur, avec une certaine ombre. Et une autre qui est un miroir de son père, qui cherche, franchement, la voie d'autorité tout le temps est très conformiste, mais aussi un homme tragique qui va devenir dans le troisième tome quelque chose de différent.
M'attendais à ce que vous nous dévoiliez des choses, mais non, vous retenez Douglas Kennedy. Et Alice Burns, c'est une jeune femme qui fait des études, qui est effectivement très libre, très indépendante, qui lit beaucoup. Et qui écoute beaucoup de musique de son époque, comme par exemple James Taylor. Don't come to me with your sorrows anymore. I don't need to know how bad you're feeling today. I declare I've had my share and I've heard it all before. It's time for me to be stealing away. Let those rain clouds roll out on the sea. Let the sun shine down on me. Hey, hey, love has brought me around. Love has brought me around. Yes, it has. Love has brought me around. Love has brought me around, yeah. Je suis montée dans ma chambre fermée de voir au son de Mudslide and the Blue Horizon. Avec l'accent français, pardon, le dernier album de James Taylor. Je l'écoutais tout le temps depuis sa sortie au mois d'avril. Contrairement à la majorité des gens, j'étais moins impressionnée par la reprise de You've Got a Friend que par le premier morceau, Love Has Brought Me Around. C'est ça qu'on vient d'entendre.
Tout à fait. Et tout le monde a écouté ce disque à l'époque. Et il y a des références culturelles partout. Joni Mitchell, The Grateful Dead. Franchement, mes enfants m'ont dit plusieurs fois, ta génération a eu des meilleures choses musicales, papa. Mais aussi, ça c'est quelque chose de passionnant au début des années 70. C'était le moment quand le féminisme est arrivé aux États-Unis. Gloria Steinem, Betty Friedan qui ont dit non. On n'a pas resté des femmes au foyer, on a des droits aussi. C'est le moment qu'on, franchement, le racisme est devenu un grand sujet. Ça a commencé avec Martin Luther King au milieu des années 60, mais aussi l'homophobie était partout.
Et on le sent dans le livre.
Oui, tout à fait. Oui,
le père est sexiste et raciste parce que c'est un moment de bascule, hein. Donc oui, les choses n'ont pas encore changé.
Mais Caroline, en fait, une petite anecdote.
Les profs couchent encore avec leurs étudiants.
Quand elle était à l'université, en fait, j'ai connu des universitaires qui a dragué des filles tout le temps. Et c'était acceptable. Mon père m'a dit en 70, Douglas, quand j'avais 15 ans, la raison pour laquelle on ne peut pas élire une femme comme président, imagine qu'elle aura des codes nucléaires quand elle a ses règles.
Votre propre père?
Oui.
Oh, il a dû inspirer aussi le personnage du père d'Alice.
Oui, tout à fait, mais aussi complètement machiste et vulgaire, exactement comme Trump. Et ça, c'est la chose passionnante. J'ai commencé ce roman avant l'élection. Et j'ai terminé la première partie, en fait, 3-4 mois avant l'élection. Mais j'ai regardé ce qu'on a tout le temps. Et ça, c'était l'obsession de mon père aussi, le fait que petit à petit, les hommes blancs ont perdu le pouvoir. Et ils ont peur des féministes, des africaines-américaines, des minorités, des homosexuels qui ont commencé à dire pendant les années 70, mais surtout les années 80, ça c'est le troisième tome aussi, non. On a des droits civils aussi.
Mais retour de bâton avec Donald Trump, Douglas Kennedy, ou retour de bâton avec l'affaire Weinstein?
Ah oui. C'est extraordinaire. Weinstein, en fait, pour moi, en fait, esthétiquement, il est comme un camembert après 8 heures de soleil. Il est absolument, en fait...
C'est pas une très très jolie image. Hein?
Mais c'est la vérité. Et honnêtement, pour moi, le truc avec Weinstein... C'est passionnant parce que c'est un miroir de Trump en même temps. Pourquoi ça a commencé maintenant? J'ai une petite hypothèse. Peut-être Trump, même si il a fait des choses complètement machistes et vulgaires, il est en dehors de ça. C'était impossible, en fait, franchement, pour une femme de gagner, en fait, la Maison Blanche, même si c'était Trump. Et donc, Weinstein, le truc pour moi, c'est un peu... Mais aussi, c'est la question de pouvoir contre des femmes et quelqu'un qui a abusé l'autorité. Et ça, c'est Trump aussi. Et je pense que la raison pour laquelle tout est arrivé maintenant, aussi avec Kevin Spacey, et la question, oui, en fait, des choses très, très longues contre des jeunes hommes, c'est l'abus d'autorité. Ça, c'est un grand thème maintenant, surtout pendant l'époque de Trump. Parce que, honnêtement, Caroline, on n'a pas de président, on a un gangster dans la Maison Blanche. Un gangster à côté d'un vice-président, M. Pence, qui est néo-chrétien, et néo-chrétienne aussi, qui a dit, en fait, je n'ai jamais dîné avec une femme qui n'est pas ma femme. Et avec sa femme, il utilise le mot « maman ». Imaginez ça. Et le fait que maintenant, en 2017, aux États-Unis, la contraception, c'est un sujet. Le fait que la homophobie a remonté, le racisme est partout, en fait, c'est une disgrâce. Et ça, c'est autre chose. Au début des années 70, le début de ce roman... OK, c'était une période très tendue aux États-Unis après une décennie très violente et aussi au milieu de la guerre au Vietnam. Mais il y a l'idée, on était américains, on a certaines valeurs extraordinaires et on peut changer des choses. Ça, c'est l'esprit d'Alice. Nixon, on a découvert, c'était une escroc, quelle surprise, mais il a perdu en fait son mandat. On a terminé la guerre au Vietnam. Maintenant, en fait, honnêtement, on a un plutocrate qui est aussi raciste, sexiste et vulgaire et machiste. Et avec un mandat qui va durer une autre 3 ans.
On va revenir tout à l'heure, hein, après le flash d'information avec vous, Douglas Kennedy, sur Trump, un an après son élection. Mais juste un mot sur ces années 70, qui sont donc le décor temporel de votre roman, La Symphonie du Hasard, et vous en parlez beaucoup. Est-ce que vous éprouvez de la nostalgie pour cette époque? Même si, dans le livre, à un moment, la narratrice parle de la nostalgie comme d'un sentiment, qui est un sentiment très conservateur, qui n'a pas l'air d'être le vôtre. Mais vous en parlez comme d'une belle époque, quand même.
Je n'ai pas de la nostalgie pour tout, en fait. La nostalgie, comme Alice a dit, c'est pour des gens très conservateurs. Non, mais en même temps, je me souviens très très bien d'une période quand, franchement, ce n'est pas nécessaire pour un homme à la vingtaine, ou une femme à la vingtaine, de penser de l'avenir, de manière que maintenant, d'une carrière, les villes étaient abordables, et... Il n'a pas le gouffre économiquement entre les plutocrates, les gens de Wall Street, de techno maintenant, et le reste. Et ça, c'est triste, le fait que maintenant, c'est l'argent, l'argent, l'argent.
Allez, on vous retrouve dans 2 minutes, Douglas Kennedy. 7h30 sur France Culture. Tout de suite, les titres de l'actualité avec Camille Magnard.
Des tirs de roquettes, des raids aériens, des affrontements qui dégénèrent et font 2 morts côté palestinien au Proche-Orient. La rue arabe a bel et bien crié sa colère hier après l'annonce de Donald Trump qui reconnaît unilatéralement Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais la violence a tout de même été contenue bien en deçà de cette troisième intifada que promettait le Hamas. Ce sera le principal dossier développé dans notre journal de 8h. Mais l'actualité ce matin est aussi marquée par la mise en examen de Bruno Lafont, rien de moins que l'ex-PDG de Lafarge, le géant du ciment français, qui voit désormais 6 de ses anciens dirigeants mis en examen donc pour financement d'une entreprise terroriste. Plus de 400 000 euros auraient été versés par la société au groupe État islamique pour pouvoir continuer à faire fonctionner sa cimenterie dans le nord de la Syrie en guerre. Le coup de colère, l'indignation des associations d'aide aux plus fragiles en France. Hier, elles sont 20 à avoir claqué la porte du ministère de l'Intérieur où Gérard Collomb veut instaurer des contrôles administratifs dans les centres d'hébergement d'urgence. Une remise en cause du principe d'inconditionnalité de l'accueil pour les associations qui refusent de demander leurs papiers aux migrants avant de les héberger. Le parti Les Républicains lui élit ce week-end son nouveau président. L'enjeu, c'est surtout l'ampleur de la victoire annoncée de Laurent Wauquiez. Le vote se fait sur Internet ou dans les locaux du parti à travers la France de 20h ce soir à 20h demain. Et puis à l'image du chanteur décédé mercredi, l'hommage rendu aujourd'hui par la France à Johnny Hallyday se veut avant tout populaire. Le cortège funéraire partira à 10h du Mont Valérien pour descendre ensuite les Champs-Élysées. Une cérémonie religieuse aura lieu en l'église de la Madeleine. Emmanuel Macron devrait y prendre la parole. Des milliers de fans venus de tout le pays ont déjà commencé à se masser tout au long du cortège dès ce matin. On se retrouve donc à 8h, Caroline.
À tout à l'heure, 8h, Camille Magnard. À suivre dans la prochaine demi-heure la suite de notre entretien avec l'écrivain Douglas Kennedy. Et à 7h40, la fabrique médiatique sur Johnny comme idole de la presse avec Richard Verly, correspondant du journal suisse Le Temps, et Étienne Gernel du Point.
Il pensait que la gaieté est une politesse. Hommage à Jean d'Ormesson sur France Culture. L'écrivain et académicien, au verbe gourmand, érudit, curieux de tout, a toujours su concilier élégance, profondeur et légèreté.
Pourquoi est-ce que j'ai écrit mon premier livre? Je vais vous le dire, pour plaire à une fille.
En 2014, il se confiait au fil de 5 entretiens avoués sur France Culture.
Malheureusement, je crois qu'elle préférait les joueurs de tennis.
Jean d'Ormesson, un esprit français, avoués de lundi à vendredi à 17h. À retrouver sur franceculture.fr, en partenariat avec Le Point.
On retrouve notre invité Douglas Kennedy, invité pour le premier tome d'une trilogie intitulée La Symphonie du Hasard. En fait, c'est pas le titre original. Le titre original, c'est The Great Wide Open. Douglas Kennedy, pourquoi c'est devenu La Symphonie du Hasard? Lequel se rapproche le mieux de l'esprit de la trilogie?
Je pense en français, La Symphonie du Hasard, c'est magnifique. The Great Wide Open, c'est très américain. Ça, c'est le grand espace américain. Mais aussi l'idée de rêve américain aussi. Ça, c'est le truc aux États-Unis, en fait. La possibilité est partout, mais aussi le conformisme est partout. J'ai fait un road trip avec ma fille cet été entre la Nouvelle-Orléans et Austin dans le Texas. Deux villes passionnantes, et Austin, c'est la ville, une des villes les plus progressistes aux États-Unis, même si c'est dans le Texas. Mais partout, et j'ai dit ça à Amelia, architecturalement, tout a été détruit. On n'a pas conservé, en fait, notre héritage. Et c'est toujours l'argent et la mondialisation.
Vous aviez fait un livre, il y a 25 ans de cela, vous aviez fait un livre sur l'argent roi, déjà, qui s'intitulait Combien, qui avait été édité chez Balfond, toujours.
Et aussi pour moi, en fait.
Vous trouvez que la situation est presque pire aujourd'hui, de ce point de vue-là?
C'est complètement plus pire aujourd'hui, parce que c'est le triomphe de la mondialisation. C'est partout. Mais le truc pour moi, c'est la fin de la classe moyenne. La classe moyenne américaine a été détruite depuis l'époque de Reagan. Et une des choses passionnantes est la stratégie du Parti républicain. Et ça, c'est aussi dans le roman. Richard Nixon, quand il a gagné la Maison Blanche en 68, il a créé une stratégie pour diviser le pays. Nixon a dit, oui, je vais capturer le Sud, mais aussi je vais créer une guerre culturelle ici. Avec l'idée qu'il y a une majorité silencieuse dans l'Amérique profonde. Et ça, c'est des vraies Américaines. Et les deux côtes, Est, Ouest, ça, c'est des snobs. Des gens de grande école, pas des vraies Américaines. Ici, en Amérique profonde, on est des vraies Américaines. Ça, c'est la stratégie que le Parti républicain a utilisée jusqu'à maintenant. Et ça, c'était la stratégie de Trump. Et c'est une des choses les plus ironiques de la vie américaine. La classe populaire et la classe moyenne a voté pour Trump contre ses propres intérêts. Pourquoi? Pour des raisons émotionnelles. En fait, le patriotisme, le drapeau, le football, le chrétienisme aussi, et l'idée que nous, des côtes de l'Est et Ouest, franchement, on n'est pas vraiment américaine, on est en dehors de ça.
Le grand professeur d'Alice dans le roman, le professeur Hancock, qui lui sert de mentor, parle à un moment de Lyndon Johnson et de la trace qu'il a laissée dans l'esprit et dans l'histoire américaine. Et il dit « L'histoire nous enseigne que ce n'est qu'une fois la poussière retombée, comme le dit le proverbe, qu'on peut enfin distinguer dans son ensemble l'héritage immensément complexe et souvent contradictoire d'une personne. » Je voudrais pas vous poser la question sur Barack Obama, mais plutôt sur Donald Trump. Vous pensez pas que le juger aujourd'hui, c'est encore un peu tôt? Un an après son élection.
Je pense
vous n'avez aucun espoir, pour le dire autrement.
Oui. Je pense que, honnêtement, on vit pendant une période très manichéenne. Et ça, c'est aussi un des grands problèmes aux États-Unis. C'est comme un western maintenant. C'est noir ou blanc. Il y a des voyous avec des chapeaux noirs, des islamistes, en fait, des émigrés, ou il y a des good guys, des vrais Américains. Et la vérité est dans la vie, tout est nuancé. Il n'a pas de réponse. Aux États-Unis, 20% de la population américaine sont comme moi, en fait, éduqués et progressistes. Mais 65% des Américains n'a aucune idée du monde entier. Même si du Canada, on ne peut pas traverser la frontière américaine maintenant canadienne sans un passeport. Mais aussi, en fait, maintenant, aux États-Unis, il y a l'idée, j'ai raison, vous avez tort. Et ça, c'est le débat maintenant. On a deux Amériques et on déteste l'autre.
Comment on fait, Douglas Kennedy, puisque vous y revenez beaucoup et que c'est la trame, encore une fois, le décor de votre roman, La Symphonie du hasard, en tous les cas du livre 1, les années 70, comment on fait pour écrire sur une époque qui a aujourd'hui 45 ans, que vous avez connue, vous étiez jeune dans ces années-là, mais pour avoir autant de détails, vous parliez des notes que vous prenez en particulier quand vous discutez avec votre fille, Amélia, mais il est question des mœurs de l'époque, il est question du design, il est question de la musique, de la littérature, il est question de politique, il est question d'histoire. Vous êtes documenté, comment avez-vous fait?
J'ai une mémoire immense. Je peux citer quand j'ai vu La Nuit américaine de Truffaut à New York, quelle séance, quel cinéma il y a 40 ans. Et je fonctionne comme une éponge, j'absorbe tout le temps. Et donc, j'ai tout utilisé dans le mémoire. Et puis, j'ai vérifié sur Internet, comme tout le monde, grâce à Google. Mais ce n'est pas nécessaire pour moi de faire des recherches. Tout était là-bas.
Tout est dans la tête.
Et ça, c'était complètement passionnant. Ma première ex-femme a dit, j'étais horrible pendant une dispute parce que je peux citer mot par mot tout que elle a dit.
Douglas Kennedy, les prochains tomes seront en 2018, le deuxième en mars, le troisième en mai. Est-ce que vous nous donneriez un petit indice de ce que les lecteurs trouveront dans le tome 2?
Le tome 2, en fait, l'accent se déroule en Irlande, parce que Alice va à l'université à Trinity College Dublin, comme moi. Et c'est en Irlande, il y a aussi un passage à Paris, en 1974, et aussi deux chapitres au milieu du coup d'État au Chili.
Oui, qui est déjà dans le tome 1.
Et pourquoi? Parce que je peux révéler quelque chose. En fait, mon père, j'ai découvert en 1974, la veille avant mon départ de Dublin, que mon père était un agent du CIA. Il a dirigé une mine dans le désert d'Atacama, dans le nord du Chili, et après le troisième gin martini, toujours dangereux, elle m'a dit, oui, depuis 10 ans, je suis un agent du CIA, et Gustavo Pinochet, c'est mon pote.
Une révélation qu'on retrouve dans le personnage de Brandon, le père d'Alice, une fois encore dans le roman. Merci beaucoup, Douglas Kennedy, et on va se quitter avec la musique que vous avez citée tout à l'heure, Joni Mitchell. On va se quitter avec Blue. Blue.
blues, you know I've been to sea before. Crown and anchor me, or let me sail away. Hey blue, there is a song for you in Canopier.
Un grand merci à Douglas Kennedy. La Symphonie du hasard, livre 1, est édité chez Belfond. Douglas Kennedy a aussi préfacé chez Talendier un livre dirigé par Gérard Mordillat sur Paris, auquel ont participé 20 écrivains amoureux de leur quartier. Enfin, Douglas Kennedy sera à la librairie Cosmopolite à Angoulême aujourd'hui à 15h.